Bonjour.
Bonjour, c'est fini pour le grand projet de centre culturel de la région jurassienne, le CREA. Faute de moyens, le gouvernement bernois renonce à le construire. 2 salles de spectacle, des locaux de répétition ainsi que des logements pour les artistes. Tout cela ne verra jamais le jour. Le projet était attendu depuis 40 ans par les milieux culturels de la région. En charge de la culture, la ministre socialiste Elisabeth Baumschneider sera notre invitée. Le Lausanne Sport ne jouera sans doute pas à la Pontesse ses futurs matchs de l'Europa League. Après sa victoire hier soir face à la Lokomotiv Moscou, la question de la mise aux normes UEFA du stade lausannois se repose 2 semaines avant le premier match. Pour le syndic de Lausanne, Daniel Brella, il serait irréalisable de faire les travaux nécessaires en 15 jours, vous l'entendrez. Nous parlerons également dans ce journal du limogeage de l'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Les premières autorisations relevant du cassis de Dijon ont été délivrées. Il sera désormais possible d'importer comme de vendre en Suisse des produits autorisés dans l'Union européenne. L'Office fédéral de la santé publique a reçu 40 demandes. 6 d'entre elles ont déjà été validées, nous dira Pascal Gendra. Le sculpteur vaudois Étienne Krainbühl expose ses œuvres au Jardin Floral Peu de Champais en Valais. Simplement complexe, c'est le nom de son exposition. Mélangeant matière et environnement, ses sculptures bougent en harmonie avec la nature. Étienne Krainbühl viendra nous en parler en fin de journal. Des nuages accompagnés d'éclaircies et des températures de 24 degrés. Demain, à la mi-journée, le temps sera bien sec jusqu'à dimanche, mais nous perdrons encore des degrés. Le thermomètre affichera en moyenne 18 degrés pour ce week-end. Prévision de Pascal Bénard dans 30 minutes. Les milieux culturels de la région jurassienne sont sous le choc après la décision du gouvernement bernois de ne pas réaliser le CREA. Le CREA, c'était ce grand projet de centre culturel interjurassien destiné aux arts de la scène. Sa construction était prévue sur 2 sites, à Delémont dans le Jura et à Bévillard dans le Jura bernois. Il devait offrir 2 salles de spectacle, des locaux de création, de répétition, des logements pour les artistes. Le canton du Jura y était favorable, mais le gouvernement bernois vient d'annoncer son refus après plusieurs années d'études. Il invoque des raisons financières. Les conseillers d'État bernois n'étaient pas disponibles ce matin pour expliquer leur décision. Avec nous, Elisabeth Baumschneider. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre jurassienne en charge de la culture. On imagine, Elisabeth Baumschneider, que la déception doit être grande pour vous aujourd'hui.
Alors effectivement, la déception est grande d'une fin, je dirais, aussi brutale par rapport à un projet emblématique pour la région, puis aussi par rapport à un dossier qui a été traité, à mon avis, de manière exemplaire, parce que on est partis ensemble en consultation. Je rappellerai aussi que du côté des instances consultées dans le Jura bernois et même à Bienne, il y avait un fort intérêt pour le CREA. Il y avait 62% à l'époque, 70% dans le canton du Jura. Le conseil du Jura bernois, qu'on dit toujours être l'élément qui donne le ton pour décider, était favorable à la réalisation, mais avait mis une condition, en disant il faut être sur 2 sites. Le canton du Jura ensuite avait ouvert la réflexion à un CREA bicéphale. Donc je veux dire, c'est un peu toute cette énergie, tout cet enthousiasme pour réaliser et pas seulement pour étudier qui aujourd'hui, c'est un peu de la tristesse, pas d'amertume parce que je crois qu'on n'a pas qualifié les décisions d'un partenaire, on en prend note. Et puis, pour nous, le CREA interjurassien est certes mort, mais le CREA en termes d'infrastructure, de création, de diffusion et d'accueil n'est pas mort du côté jurassien. Il faut qu'on réfléchisse avec les milieux culturels. Cette région a besoin, a le droit d'infrastructures. On sait que Fribourg, que Neuchâtel, qui ont connu des débats, sur la nécessité de théâtre ou d'infrastructures culturelles, aujourd'hui n'arriveraient même plus à imaginer qu'elles n'existent pas.
Mais justement pour la suite, est-ce que le Jura pourrait réaliser ce projet, par exemple, avec d'autres partenaires, par exemple des régions du côté de Belfort, par exemple?
Alors, c'est vrai que maintenant, on a une excellente collaboration sur des projets, des festivals avec le territoire de Belfort. Par contre, c'est pas de la même nature sur le plan d'un investissement dans une infrastructure. Mais le Jura va réfléchir avec ses partenaires. Et puis, on va redimensionner le projet parce que nous aussi, on a une situation financière qui est délicate. Mais je dirais que peut-être à l'inverse de la décision bernoise, on a le sentiment que ce projet est emblématique et porteur non seulement d'espoir et de dignité sur le plan culturel, mais porteur aussi de développement socio-économique. Quand une entreprise, quand des particuliers s'intéressent à une région, il y a bien sûr des questions de fiscalité, mais on se pose aussi la question de l'offre culturelle, de toutes sortes d'autres éléments, mais l'offre culturelle est un élément déterminant.
Les milieux culturels de la région jurassienne, on imagine évidemment leur déception. Aujourd'hui, 40 ans qu'ils attendaient ce CREA. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, je leur dis que rendez-vous est pris pour dialoguer. On ne ferme pas la porte au milieu culturel du Jura bernois. On a une commission culturelle interjurassienne. On a une association, je veux dire, des centres culturels régionaux interjurassiens. Mais je veux dire, il faut quand même observer, constater que le nom du canton de Berne repose des questions institutionnelles. Parce qu'on va discuter avec ces centres, mais plus de la même manière. D'ailleurs, on n'est pas légitimé de la même manière que quand on travaillait en commun sur le projet du CREA. Mais on va ouvrir le dialogue avec eux pour voir comment on redimensionne sans perdre la substance de ce projet qui n'était pas une simple salle mais qui était un lieu de diffusion, de création et d'accueil.
Donc positif, faut garder espoir, c'est le message que vous leur adressez aujourd'hui.
Alors oui, puis je les remercie surtout, non pas d'attendre depuis 40 ans, ça serait saumâtre, mais de l'énergie et puis du côté créatif qu'ils ont mis. Certains ont cherché à dire qu'ils étaient divisés, ils n'étaient pas si divisés que ça, ils voulaient s'approprier le projet. Alors maintenant, on va se l'approprier, entre guillemets, entre jurassiens, puis différemment avec d'autres partenaires.
Je vous remercie beaucoup, Elisabeth Baumschneider, ministre jurassienne en charge de la culture, d'être venue réagir à l'abandon du projet CREA, sur invitation de Daniel Rieder. Merci madame, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
On va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Un poids lourd en panne continue de perturber le trafic sur l'autoroute Yverdon-Lausanne entre Cossonay et Villars-Sainte-Croix en direction de Genève. En football, il est peu probable que le Lausanne Sport joue à domicile ses matchs de l'Europa League après sa qualification hier soir face au Lokomotiv Moscou. Lors du match aller, les Vaudois s'étaient montrés enthousiastes à l'idée de retrouver une équipe de choix à la Pontaise. Et même si cette qualification aurait pu amener des retombées économiques pour la ville, il sera pourtant difficile de voir jouer le LS à la maison, comme l'explique le syndic de Lausanne, Daniel Brella.
Ça a des effets qui sont moins importants qu'on pense, mais néanmoins ça s'inscrit bien dans l'image Lausanne, capitale olympique, et dans le développement du sport que l'on veut faire tout en comme ville autour de Lausanne, capitale olympique. Et dans cette optique-là, effectivement, il y a un supplément d'image incontestable, il falloir arriver à le transformer. Tout ne pourra pas se faire une saison malgré tout. J'espère bien sûr que les exploits continuent, mais chaque fois qu'on monte dans le cran, c'est encore plus dur.
Est-ce que la ville de Lausanne veut investir de l'argent pour soutenir d'une certaine façon le Lausanne Sport ?
Alors, la ville de Lausanne va investir pas mal d'argent d'ici 2 à 3 ans pour avoir un nouveau stade à l'anglaise au sud de la ville, qui sera conforme aux doutes qu'on entend aujourd'hui dans les journaux sur est-ce que Lausanne pourra jouer à Lausanne ou pas. Maintenant, la question normalement, d'après ce que disent certains arbitres par rapport au stade qu'il y a dans certains pays de l'Est, l'actuel est encore génial. J'espère donc pas qu'ils ont un perfectionnisme ciblé sur ce que devrait être une norme helvétique soi-disant moderne pour les empêcher de jouer à la maison, mais ça, on le verra bientôt.
Il y a des normes UEFA, effectivement, et le stade de la Pontaise, par exemple, devra se mettre aux normes. Premier match pour le LS en Europa League, on parle du 16 septembre, on ne sait pas si ce sera à Lausanne ou à l'extérieur. Est-ce que la ville va investir ?
Les normes ordinaires, on peut les tenir sans problème, sécurité et autres. La seule question, c'est que si on nous met des normes extraordinaires, de construire des tribunes couvertes tout autour du stade, c'est juste un zap en 15 jours.
Donc là, si je vous comprends bien, effectivement, aujourd'hui, d'ici au 16 septembre, on ne va pas investir et rafraîchir en fait le stade de la Pontaise.
Non, c'est pas un rafraîchissement, c'est bon, que vous faites. Le rafraîchissement, on l'a fait pour permettre des matchs internationaux, donc ça pourrait jouer. Si on va à coup d'un, je ne sais pas quel perfectionnisme outrancier, on ne construit pas des tribunes à 20 millions, contrairement à ce que vous pensez, en 15 jours. C'est seulement ce cas-là qui serait menaçant, pas l'autre.
On parlait du FC Saint-Gall, qui est en proie à des difficultés financières et qui a un soutien d'ailleurs des privés, des sponsors. Est-ce qu'en clair, le sport professionnel, Daniel Brella, c'est une affaire que de privés ?
Écoutez, c'est surtout une affaire privée, mais nous avons aidé plusieurs fois les clubs lausannois autour de plusieurs milliers de francs quand ils avaient des difficultés. 2 fois le Lausanne Hockey Club, 1 fois le Lausanne Sport. Mais je veux dire, à l'époque, l'effort a été fait.
Daniel Brella, syndic de Lausanne, et le tirage au sort de l'Europa League se déroulera tout à l'heure à 13h. Et puis à Neuchâtel, Jean-Michel Eby n'est plus l'entraîneur de l'équipe première de Xamax. Joël Robert, ce sont les très mauvais résultats enregistrés jusqu'ici en championnat qui sont à l'origine de ce départ.
Oui, 6 matchs, 4 points, Xamax dernier avec Saint-Gall, une seule victoire et surtout des défaites évitables alors que Xamax menait 2-0 par exemple contre Lucienne et Thun. Et bien à chaque fois le club a perdu le match. Alors évidemment, comme c'est toujours le cas, l'entraîneur paye les pots cassés, mais évidemment aussi, il n'est pas le seul responsable. Il y a eu quand même à l'intersaison des transferts ratés, hein, voulus par la commission technique de Neuchâtel-Xamax. On pense notamment au gardien Bédénic qui est arrivé pour des salaires mirobolants, alors qu'il y a deux très bons gardiens du côté de Neuchâtel. La fracture, en fait, a eu lieu à l'intersaison de l'an dernier quand Brown et Gavranovic, les hommes qui marquaient des buts, qui faisaient rêver Xamax à l'Europe, et bien lorsque ces deux-là sont partis, Xamax a commencé à perdre beaucoup de matchs. Schürmann était licencié et donc aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Michel Eby. On ne connaît pas encore le nom du successeur de Jean-Michel Eby. On parle évidemment des entraîneurs au chômage, Lucien Favre ou autres. Pour le match de samedi à Bâle, c'est l'assistant Radu Nunweiler qui sera à la tête de ce Xamax-là qui décidément va très mal en ce début de saison.
Joël Robert, merci pour ces précisions. Dès mardi prochain, il sera possible d'importer et de vendre en Suisse du sirop de fruits français, du jambon autrichien et même du cidre danois, selon les normes techniques de ces États. L'Office fédéral de la santé publique a délivré ses premières autorisations relevant du CACIS de Dijon. Elle a aussi rejeté une série de demandes, Pascal Genra.
Commençons par les recalés du CACIS de Dijon. Il s'agit des compléments alimentaires type multivitamines aux plantes. Eh bien, 13 demandes déposées par GlaxoSmithKline ont été rejetées, comme on pouvait s'y attendre. Ces produits figurent parmi les exceptions prévues au CACIS de Dijon et resteront donc soumis aux réglementations sur les produits spéciaux. L'entrée en douceur des compléments alimentaires par la porte du CACIS de Dijon n'aura donc pas lieu. On ignore si Glaxo entend encore faire recours contre cette décision. Mais aujourd'hui, on connaît aussi les tout premiers produits alimentaires qui entreront par cette porte. Il y en a 6. Ce sont deux fromages français et allemands, un jambon autrichien, vous l'avez dit, une limonade italienne aussi, un sirop français et un cidre danois. Concrètement, pour ce cidre, cela veut dire, par exemple, que pourra être vendu en Suisse un cidre produit selon les normes danoises, c'est-à-dire qu'il peut ne contenir que 15% de jus de pomme, alors qu'aujourd'hui, pour s'appeler cidre en Suisse, un produit doit en contenir 70% de jus. C'est ce qu'explique Nicolas Schenk, qui est juriste à l'OFSP.
Peut-être que dans un premier temps, le consommateur qui est habitué à acheter du cidre selon certains critères bien fixés risque d'être un peu surpris. Il faut aussi rajouter que la liste des ingrédients sera toujours indiquée. Donc finalement, si le consommateur veut savoir ce qu'il y a dedans, il peut lire la liste d'ingrédients. Et puis finalement, par la suite, le consommateur fera son choix en fonction plus de la marque peut-être que du nom du produit.
Alors plus de variété et de concurrence hein, entre même type de produits. La qualification de sirop, par exemple, sera bien plus large. Alors est-ce que les distributeurs joueront le jeu? Est-ce qu'ils importeront ces produits de moindre qualité et les vendront à un moindre prix aussi? C'est la question. La qualité, en tout cas, devra alors savoir se vendre. Les producteurs suisses peuvent très bien produire désormais aux normes de n'importe quel état de l'UE, mais ils peuvent aussi s'en tenir aux normes suisses. Et là, il leur faut dès lors savoir vendre cette qualité. La qualité, ce marketing, c'est d'ailleurs un enjeu crucial pour l'avenir. Le hasard faisait ce matin à Berne que l'Office fédéral d'agriculture venait présenter un document sur la filière agricole à l'horizon 2025. La qualité, la Swissness, la sensibilisation de la population à cette qualité, c'est une des planches de salut de l'agriculture helvétique dans un monde qui s'ouvre, dont les ressources sont limitées et qui reste soumis aux crises, soulignait l'Office fédéral de l'agriculture.
Pascal Gendrin, en direct de notre studio du Palais fédéral.
Infotrafic, RSR.
Un accident s'est produit sur l'autoroute Martinition entre Ried et Comté en direction du Simplon. Attention, il y a des débris sur la chaussée. C'est aujourd'hui à Vevey que se termine le procès Doriot, du nom du municipal montreusien, accusé de corruption passive. Jean-Claude Doriot, l'ancien responsable de l'urbanisme de Montreux, est sur le banc des accusés en compagnie d'un ami architecte et de son ex-compagne. Ce matin, place aux plaidoiries que vous avez suivies, Ariane Hesler.
Oui, et surtout place au réquisitoire et particulièrement en ce qui concerne l'accusé principal Jean-Claude Doriot. Le procureur Éric Cottier a abandonné l'accusation de corruption passive, difficile à prouver, mais il conserve l'accusation d'acceptation d'un avantage moins lourd pénalement. L'acceptation d'un avantage, c'est selon Éric Cottier ce crédit sans intérêt offert à Jean-Claude Doriot par son ami architecte, un crédit qui jette un doute sur la liberté de Jean-Claude Doriot dans ses fonctions de municipal et dans ses choix en tant que responsable de l'urbanisme. Le procureur a également maintenu l'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse à propos d'un acte notarial signé par Jean-Claude Doriot et son ex-compagne, un acte frauduleux à nouveau très peu compatible avec des charges de municipal. Au final, le procureur requiert une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, plus une peine pécuniaire compensatoire de 155 000 francs. Pour l'architecte impliqué dans la vente des bosquets de Fontaine-Yvan, également sur le banc des accusés, le procureur a également abandonné l'accusation de corruption, mais retient l'octroi d'un avantage. Il demande 300 jours amende de 1 000 francs avec sursis et une peine immédiate de 50 jours amende à 1 000 francs. Cet après-midi, place donc aux plaidoiries.
Merci Ariane Hasler en direct de Vevey. Et on reste dans le canton de Vaud où un nouveau scandale éclabousse l'armée suisse. Les faits se sont déroulés la semaine dernière à la caserne de Bière. Le Blick publie ce matin les extraits d'une vidéo montrant des recrues battues à coups de chaîne. Explication Stéphane Delery.
6 recrues sont debout, le visage contre le mur de la caserne. 2 supérieurs passent derrière les hommes avec une chaîne et les frappent violemment un à un. Les 6 recrues hurlent de douleur sous le regard du reste de la troupe hilare. La vidéo à voir sur le site internet du Blick ne dure que 30 secondes, mais les images sont éloquentes. Le film a été tourné dans la cour de la caserne de Bière, dans le canton de Vaud. L'auteur est un soldat qui effectuait son cours de répétition dans la même caserne. « Je devais filmer, sinon personne ne m'aurait cru », dit-il au journal. Ce soldat interprète ses coups de chaîne comme un bizutage. Les recrues étaient à Bière depuis 7 semaines et allaient recevoir leur première distinction. L'armée confirme l'authenticité des images. Son porte-parole affirme que ce rituel est totalement inacceptable. Christophe Brunner précise que de telles pratiques dénigrantes ne sont pas tolérées dans l'armée suisse. Les auteurs seront poursuivis.
À Bienne, inauguration aujourd'hui d'une poste, d'un genre spécial. Elle n'est gérée que par des apprentis. 8 jeunes femmes, 2 jeunes hommes. Une spécificité supplémentaire s'ajoute. Ces apprentis qui n'ont pas 20 ans doivent gérer des clients aussi bien en français qu'en allemand. Ville bilingue oblige. L'un de ces apprentis nous a rejoint. Bonjour Valentin Opliger.
Bonjour.
Vous avez 19 ans dans 2 semaines, vous êtes en 3e année d'apprentissage, c'est à vous que l'on l'a confié la responsabilité de ce bureau de poste. Et d'ici environ 2 mois, il y aura quelqu'un d'autre à la tête de ce bureau, un autre apprenti prendra le relais. Quelles sont vos responsabilités aujourd'hui?
Exactement, donc maintenant, actuellement, pendant 2 à 3 mois, je suis responsable dans cette nouvel office. Mes responsabilités sont énormes, mes initiatives la même chose. Pour tout ce qui est réclamation et autres, c'est comme ça que ça se passe, où on va plus haut s'adresser. Mes responsabilités sont que les chiffres tout d'abord, les budgets, les chiffres qu'on doit présenter. On remercie plus haut de nous avoir donné la chance et à nous de nous leur prouver comme quoi l'office d'apprenti puisse arriver au budget donné.
C'est vrai que vous devez effectivement donner des preuves, vous dites responsabilité énorme, et pourtant vous n'êtes pas plus payé qu'un apprenti standard de 3e année. Ça ne vous pose pas de problème alors que vous avez plus de responsabilités?
Non, ça ne me pose pas de problème parce que le fait on ne vient pas dans cet office pour cette formation pour le salaire, on vient pour le rôle, pour apprendre, pour élargir nos connaissances, nos capacités, et c'est ça le réel but de cet office d'apprenti.
Il y a donc cet office à Bienne, il y a aussi d'autres offices postaux en Suisse qui sont gérés par des apprentis. Vous devez en plus de gérer des clients, mais gérer des clients qui parlent deux langues, allemand, français. C'est un défi de plus pour vous qui n'avez d'ailleurs pas beaucoup d'expérience puisque vous êtes en apprentissage.
Exactement, donc on est le seul office bilingue, ce qui est un honneur pour nous, un avantage en plus pour pouvoir parler les deux langues à la fin de notre apprentissage. Je pense pas que c'est un problème. Le client est roi chez nous, on doit se mettre à
c'est
son niveau.
C'est plutôt un avantage de parler deux langues en fait.
Exactement, c'est un avantage pour nous en plus des autres offices d'apprenti. Et le client est roi, donc nous devons soumettre à sa langue à lui. Pour commencer, on a sélectionné des personnes pour pouvoir travailler dans cet office. Et puis la plupart des gens ont une connaissance allemand et français pareil.
Vos clients, ils sont au courant que c'est les apprentis à qui ils ont affaire?
Exactement. Au préalable, nous avons fait des flyers
pour sensibiliser la population,
pour informer les gens, les anciens clients. Ils sont satisfaits de cette nouvelle office d'apprenti et heureux de venir qu'on les serve.
Ben, je vous souhaite une bonne suite, Valentin Opliger. Bon. Merci d'être venu partager votre expérience dans le journal sur invitation de Muriel Balamant. En France, le Parti Socialiste tient dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche sa traditionnelle université d'été à La Rochelle. La Rochelle, d'où vous êtes en direct, Mehmet Gültaş. On peut dire que la rentrée politique 2010 se présente sous les meilleurs auspices pour le principal parti d'opposition.
Oui, on peut le dire en effet, les socialistes ont le vent en poupe, ils sont gonflés à bloc par les sondages qui leur sont favorables, ils se sentent rassurés par leur leader, Martine Aubry, qui a su peu à peu asseoir son autorité, ils ont retrouvé la sérénité à l'interne, les barons du parti ne se déchirent plus en public comme par le passé, des règles ont été adoptées pour les primaires, bref, les socialistes voient l'avenir en rose.
Mais ce vent d'optimisme ne provoque pas pour autant l'euphorie.
Non, les sondages ne font pas une élection. Le grand soir, s'il se produit, c'est pour dans un peu moins de 2 ans. Entre-temps, pas question de surfer sur la vague anti-Sarkozy, qui explique en grande partie les bons scores des socialistes dans les études d'opinion. Dirigeants et militants du parti en sont d'ailleurs conscients. Le PS doit proposer un programme convaincant, un projet crédible, y compris sur le thème de l'insécurité. À ce sujet, dans un entretien accordé aujourd'hui à Libération, Ségolène Royal exhorte ses camarades à ne pas rééditer l'erreur de 2007 en abandonnant ce thème à la droite. Martine Aubry devrait évoquer la question dimanche dans son discours de clôture et le parti doit réunir un forum sur ce sujet cet automne.
Et puis, autre défi, ne pas ranimer la guerre des clans.
Oui, si officiellement les ténors du parti se tiennent à carreau derrière leur leader Martine Aubry, dans les coulisses, les partisans des différents présidentiables s'activent. L'université d'été ici à La Rochelle pourrait donner le coup d'envoi de la compétition pour les primaires. D'autant que Dominique Strauss-Kahn, qui n'est pas sur place, caracole en tête des sondages. Le dernier est publié hier dans le Nouvel Observateur, le crédite d'une écrasante victoire face à Nicolas Sarkozy. Mais officiellement, le patron du FMI ne se préoccupe que de son mandat actuel. La consigne est clair à ce sujet, pas question pour ses lieutenants de pavoiser ici à La Rochelle. L'heure des primaires n'a pas encore sonné, même si ses partisans s'impatientent d'entendre leur champion annoncer sa candidature.
Mehmet Gültaş en direct de La Rochelle, merci.
Radio Suisse Romande, le journal de la mi-journée, Natacha Van Kutsem.
L'association musicale vaudoise Eustache se transforme en constellation dans le cadre du Lausanne Estival. Trois soirées de concerts présenteront les dernières créations. Après l'hommage au tango trash hier soir, place au jazz et au cinéma. Précision de Pierre-Étienne Joie.
Jazz du terroir romand d'abord avec le quintet Popolien plus 2, formation toute nouvelle 2010, issue du quintet historique créé il y a 20 ans. Jocelyne Rudasiwa du comité de stage.
Donc ça c'est le retour du quintet après quelques années d'absence suite au décès de Jean-François Bovard. Là c'est reparti avec additionné de deux compères. C'est la naissance de stage en fait, parce que stage est vraiment né avec Popol Lavanchy et Jean-François Bovard. Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil en fait, c'est plus qu'un clin d'œil. L'écriture est celle de Popol, l'esprit est celle de Popol Lavanchy est toujours le même.
Et troisième événement, une collaboration avec la Cinémathèque et le Zinéma, une composition originale pour accompagner le chef-d'œuvre du muet de Marcel L'Herbier, L'Inhumaine.
Collaboration avec la Cinémathèque, on en avait déjà eu une en 2008 autour de beaucoup de courts-métrages de Charlie Bowers, et là il y avait eu beaucoup de gens qui avaient écrit et il y avait une envie de faire un long métrage pour fêter aussi les 100 ans de la musique au cinéma. Donc voilà, c'est parti de là. Patricia Bossart et Julien Galland ont travaillé sur la musique. Ils ont les deux travaillent dans des univers assez différents. Julien, c'est très écrit, c'est une écriture avec des plages d'impro, très jazz. Patricia est plus partie dans l'improvisation. Et c'est le mélange des deux se fait très bien sur le film. Voilà.
Les musiciens de Stache à Lausanne Estival ce soir avec le quintet Popolien plus 2 et demain avec L'Inhumaine de Marcel L'Herbier. Plus de détails sous www.eustache.ch. La matière, le métal, le bruit en harmonie avec la nature, tous ces éléments sont réunis au jardin Floralp à Champey en Valais. Le sculpteur vaudois Étienne Krenbull expose ses œuvres en plein air et c'est notre invité. Bonjour Étienne Krenbull.
Bonjour.
Simplement complexe, ça c'est le titre de l'exposition. Où est la difficulté et où est la simplicité dans le travail que vous présentez ?
La simplicité, c'est le décor qui est tellement naturel. Un écrin, Champey, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un endroit magnifique. Le jardin botanique qui est une merveille, on se dirait dans une archive où on a collectionné patiemment 4000 variétés de plantes. Et puis la complexité dans les plantes, c'est tout leur jeu de beauté pour être vu, de mouvance pour être repéré, de séduction. Et c'est tout un jeu que je transpose aussi volontiers sur mon métal, qui a une apparence simple, par l'aspect, simplement souvent des tôles rouillées, et qui a la complexité parce que j'utilise toujours ces matériaux mémoire de forme qui, justement, dans ce jardin, s'accordent très très bien avec les plantes puisque je joue avec le jeu, avec la mobilité, avec le souffle, avec les éléments naturels, la chaleur. Donc, je suis vraiment dans un espace où mon travail se met vraiment en valeur.
La nature aussi vous sert beaucoup. Et pour que les auditrices et auditeurs visualisent bien, vos sculptures, elles jouent avec la nature. S'il y a du vent, ça crée du son. Il y a des tiges qui sont comme aériennes. Tout est vraiment en mouvement. Est-ce que vos œuvres, vous les voyez presque comme un être vivant? Il y a une forme de vie dans ces œuvres-là parce qu'elles ont justement cette mouvance?
Alors, absolument, parce que j'ai conçu cette exposition dans une sorte de discrétion. On découvre les sculptures un peu comme on découvre des variétés de plantes. Elles ne sont pas monumentales, ce que j'ai dans d'autres expositions. Là, je joue sur vraiment une intimité, une découverte. Et j'ai voulu jouer avec un trouble, c'est-à-dire qu'il y a 12 sortes de statues très monolithiques, cubiques, qui, le cube supérieur bouge avec le vent, et c'est comme un peu comme si les sculptures étaient des spectateurs qui regardent finalement l'acteur qui entre, le visiteur.
Et outre ces expositions, quelle importance, quel rapport vous avez avec la nature? Elle est omniprésente dans votre travail et dans votre vie?
Oui, bien sûr, parce que je travaille essentiellement avec le temps qui fait. Le métal, c'est une peau qui s'échange comme la nôtre avec les années, et toute cette lecture du temps est une orientation très importante dans mon travail. Et si vous voulez, je peux mettre deux notions de temps, le temps qui fait, donc cette peau, qui est l'oxydation, la corrosion, et le temps qui passe, qui est, qu'on retrouve dans mon travail comme un aspect philosophique, de sorte de pendule de l'imaginaire. Tout mon travail est constitué de vide et d'espace. C'est de plus en plus dans mon travail la légèreté et l'espace entre les choses qui me remplit, on pourrait dire.
La sonorité que peut apporter le matériau, ça a aussi une grande importance dans votre travail. On a tendance parfois à penser qu'une sculpture, elle est tout simplement muette. Or, pour vous, c'est tout le contraire, en fait.
C'était un peu une surprise, une découverte qu'en jouant avec le mouvement, qui était la priorité, tout d'un coup, ces bâtonnets de métal qui ressemblent presque à du bois se mettent à avoir une résonance qui est extraordinairement claire et très cristalline, très belle. Et effectivement, toute une série de pièces sont des recherches qui deviennent sonores, presque comme un musicien, et je travaille de plus en plus avec un aspect de recherche sonore.
Jardin d'automne, ça c'est votre programme suivant, après Champais. En septembre, vous serez présent au Jardin d'automne, c'est dans le canton de Vaud.
Oui, ce sera une exposition avec une surprise, et la première fois que finalement en Suisse, je vais présenter mes œuvres monumentales qui étaient dans mon atelier, que j'ai exposées à différents endroits, que ce soit à San Francisco, que ce soit à Lille, en France, en Espagne. Et pour une fois, j'ai un espace où j'ai carte blanche pour faire l'obscurité, pour découvrir les pièces.
Et puis, juste un mot sur cette boule qui est sur le lac de Champais, qui avait été abîmée par des vandales. Est-ce que vous l'avez réparée?
Écoutez, c'est pas, si je dois la réparer, je dois l'enlever et presque la refaire. Ce qui aurait coupé un peu le fil de l'exposition. Et malheureusement, c'est vrai que j'ai été très surpris qu'une sphère qui est comme une perle soit vandalisée, parce que finalement, c'est pas un objet qui pousse à l'agression. Mais je crois que la beauté dérange parfois.
Et oui, peut-être bien. Merci beaucoup, Étienne Krahenbühl, d'être venu dans ce journal Simplement Complexe. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 3 octobre au Jardin Floral à Champais, en Valais. Et puis, il y aura d'autres actualités pour vous au mois de septembre dont on vient de parler. Merci beaucoup à vous et bonne journée.
Merci beaucoup.
Un mot encore de la Bourse suisse à la mi-journée. L'indice SMI, il est en hausse 0,08%. Il se situe à 6136 points. Les prévisions météo du week-end avec Pascal Bénard.
La couverture nuageuse se déchira par moments au cours de l'après-midi, mais il continuera de pleuvoir par saccades. Des orages peuvent éclater n'importe quand. Les thermomètres peineront à afficher des valeurs plus élevées que celles de l'aube. On prévoit des maxima de l'ordre de 22 degrés. La journée est très humide et venteuse aussi. Le sud-ouest se fait par moments bien sentir sur le plateau. À la montagne, les vents de secteur ouest sont soutenus et par instants tempétueux. La matinée de demain s'annonce encore nuageuse et ponctuée d'averses, surtout le long des Préalpes. Les conditions s'amélioreront lentement dans les régions de plaine au cours de l'après-midi. L'atmosphère sera plutôt fraîche. Les températures à basse altitude oscilleront de 14 degrés, minimum au réveil, à des maxima de 19 degrés dans la plupart des régions et de 21 degrés en Valais. Dimanche, le temps s'annonce sec, mais la fraîcheur s'accentuera. Il ne fera pas plus de 18 degrés. Une nouvelle dégradation est attendue dans la nuit de dimanche à lundi.
La météo avec Café Kikodoro et son système à capsules.
C'est la fin de ce journal de midi et demi. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer. Aujourd'hui, à l'assistance technique, il y avait Christophe Esseva et Sandro Lichy à l'édition Patricia Mélan. Lundi, David Racana vous proposera un tour d'horizon de la rentrée littéraire. Il entamera sa semaine en compagnie de l'auteur Virginie Mouza. Elle est auteure du livre La vie adulte parue chez Albin Michel. N'oubliez pas Forum ce soir sur la première entre 18h et 19h. Et dans une poignée de secondes sur cette même antenne, il sera 13h. Bon week-end.